extérieures à nous, écrites, que ce soit sur de la pierre ou du papier, mais qu'elles soient intériorisées grâce au ministère de l'Esprit, qu'elles s'inscrivent sur nos cœurs. La foi, c'est avoir des convictions que Dieu inscrit en nous. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris, ça dépasse une éducation. La foi, c'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est une grande différence entre la foi religieuse, la foi humaine, et la foi de Dieu. Et Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, pas la foi des hommes. Parce que on peut avoir la foi des hommes, la foi religieuse. On peut avoir la foi, la seule et unique véritable. C'est celle que Jésus suscite. Il est dit de la foi que c'est Jésus qui l'initie, qui la suscite, qui la démarre et qui l'achève à sa perfection. Gloire à Dieu. Et parfois, nous avons du mal à faire la différence entre ce qui est du religieux et ce qui est du spirituel. Et même d'ailleurs, le mot spirituel est galvaudé aujourd'hui. On constate avec l'Oasis, je trouve, que les gens qui sont intéressés par du spirituel, mais pas forcément par le spirituel authentique de Dieu. Spirituel, dans la Bible, ça veut dire de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est différent du spirituel que les gens recherchent parfois. C'est un peu ésotérique, oriental, philosophique, un mélange un peu de tout. Mais pour nous, nous croyons que nous avons tout en Jésus-Christ. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. Amen. Il est la vérité, le chemin et la vie. Est-ce que le Seigneur fait partie de votre vie ou est-ce qu'il est votre vie même? J'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous sur une vie consacrée. Parce que c'est différent d'avoir le Seigneur dans sa vie et que le Seigneur soit le Seigneur de notre vie. Avoir le Seigneur dans sa vie, c'est être plutôt religieux. Que le Seigneur soit notre vie, c'est lui appartenir. Il y a dans beaucoup de chants des anomalies parfois. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on a chanté que Dieu nous aime par-dessus tout, par-dessus tout. Moi, je crois que bibliquement, par-dessus tout, le Fils est mort à la croix pour son Père, par amour pour son Père. Parce que par-dessus tout, ça sera toujours Dieu et jamais nous, par exemple. Mais d'autres choses, on entend parfois, il a donné un sens à ma vie. Non, moi, Christ ne m'a pas donné un sens à ma vie, il m'a donné la vie. Il est la vie même. Il ne donne pas un sens à la vie. Dans le monde, parfois, les gens disent, ça m'a réorienté, ça m'a donné un goût de vivre, un sens à la vie. Mais, excusez-moi, le Seigneur ne donne pas un sens à la vie. Sans lui, on est mort. Il est la vie même. Et une vie consacrée, c'est plus que faire de la foi un sens à sa vie. Alors, on va lire Philippiens chapitre 1, verset 21, s'il vous plaît, ensemble. Une parole magnifique, facile à retenir, utile, mais plus facile à retenir qu'à expérimenter, certainement. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Philippiens 1, 21. Voilà ce que Paul dit. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Amen. Paul n'a pas dit Christ a donné un sens à ma vie. Christ est ma vie, c'est toute ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Depuis sa conversion, toute sa vie, c'était le Seigneur. Parce que la conversion est une consécration. Mais alors, j'ai repensé quand on a prié tout à l'heure pour cette sœur, à ce passage. Et j'aimerais lire ce qu'il dit juste avant le verset 21. On le lit ensemble. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Amen. Vous savez pourquoi Paul dit cela ? Il est emprisonné. Il va être jugé. Il peut être décapité. Il peut mourir. Et il dit, mais comme toujours dans ma vie, je vais glorifier Dieu dans mon corps. Et de quelle façon ? De deux façons différentes. Soit en mourant martyr, soit en étant délivré de prison par sa vie. Soit par ma mort, soit par ma vie. Vous savez, comme, et c'est là pour cela qu'il dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. C'est-à-dire qu'il est prêt même, après son emprisonnement, à être décapité, à mourir, parce que pour lui, mourir, c'est avoir la vie éternelle, c'est gagner. Alléluia. Paul était prudent. Je pense que pour notre sœur, comme pour tout autre cas, il faut être prudent. Je me souviens de cette assemblée où un dimanche matin, au culte, quelqu'un prétendument a prophétisé la guérison d'une personne qui était atteinte d'un cancer. Alors toute l'église était émerveillée, emballée, il y avait de l'euphorie dans ce culte. Le problème, c'est qu'une semaine ou deux semaines après, cette personne concernée, une sœur de l'église, est morte. Je crois qu'il faut être prudent. L'apôtre Paul, apôtre, qui avait reçu des révélations, parlant de lui-même, il dit, de toute façon pour moi, ce qui compte, c'est pas que je vous dise, vous inquiétez pas les frères et sœurs, Dieu est tout puissant, il va me délivrer de prison. Non. Je vais plutôt vous dire, ce qui compte pour moi, la priorité, c'est que je glorifie Dieu dans mon corps. Soit par ma fidélité jusqu'à la mort, soit par ma délivrance de prison pour continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Bon, l'apôtre Paul avait une vie, cette vie consacrée dont je vous parle, qui lui permettait de voir les choses humaines sur un second plan. Il acceptait tout de la main du Seigneur. Amen. Et je crois que c'est important dans nos vies de consécration, de dire... Ma vie ou la vie des autres, la vie de notre sœur ou la vie d'autres que nous aimons, comme je t'appartiens, tout le monde t'appartient, tu fais ce que tu veux. Et Dieu soit béni. Alléluia. Une vie de consécration va nous aider, je crois, dans la vie de tous les jours, à vivre pour le Seigneur avant ce qu'on veut. Ce qu'on préférerait, c'est continuer de tout lui donner. Vous vous rappelez d'Abraham avec le mont Moria ? C'est magnifique ce passage. Hein ? Donne-moi ton fils. Oh. Il est écrit que le lendemain, Abraham se leva de très bonne heure, de bon matin. Je pense qu'on aurait pu traîner après ce que Dieu lui demandait. Lui, il ne traîne pas, il obéit tout de suite. Et il donne son fils. Bon, bien sûr, Dieu le retient, mais il l'a donné. Et Dieu dit à Abraham, là, je vois maintenant vraiment que tu me crains. Je pense que Dieu veut voir si on l'aime vraiment. Nous nous disons souvent, mais Seigneur, tu m'aimes tellement, tu as donné ton fils. Bien sûr, mais peut-être que Dieu voudrait voir aussi si nous, on l'aime. Et est-ce que nous, on est capable de donner comme lui a tant donné. Alors, on va lire justement dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, un beau passage qui parle de ce retour de la croix, si on peut parler comme cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, 15. Je vous laisse le temps de trouver le passage, hein, si vous le cherchez. 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Il n'est pas mort pour nous, pour notre épanouissement personnel. Vendredi soir, on a eu une petite étude biblique où un frère partageait et il posait la question « Quels sont d'après vous les plus grands dangers pour l'Église d'aujourd'hui ?» C'est une question intéressante. On pourrait vraiment y réfléchir. Et peut-être que l'un des plus grands dangers qui guette l'Église d'aujourd'hui, c'est l'épanouissement, la recherche de l'épanouissement personnel. C'est mélanger le psychologique avec le spirituel. C'est faire de l'évangile, de nos chants, de nos louanges et de la foi d'une façon générale, un moyen de remettre notre besoin au centre. Notre besoin d'être aimé, notre besoin de victoire, notre besoin de tant de choses. Le culte sert à adorer Dieu, à aimer Dieu. Et pas à trouver dans le culte des réponses psychiques à nos besoins. Et ici, il est dit, il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui, dans le langage même, dans le vocabulaire même des prédicateurs, on parle beaucoup de notre identité maintenant. C'est une expression qui vient de la psychologie. Trouver notre identité. Et on parle de notre identité en Christ. Mais c'est toujours nous encore. Le problème de nous, de notre destinée, de notre place. Notre place dans l'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre identité, c'est toujours le moi. Alors que l'Écriture nous demande de mourir à nous-mêmes et d'aimer Dieu. Pour nous, il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Amen. Vivre pour lui. Notre moi, notre identité, ça passe après. Pourvu seulement que Christ soit Seigneur dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. C'est le sens de la croix. On peut lire dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, ce passage que j'ai préparé également, où il nous est bien dit qu'à la croix, on a perdu notre vie. On a perdu les rênes de notre vie. Apocalypse 5, verset 9, il est dit ceci. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, encore une fois, pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. » Alors souvent, on pense que Christ est mort pour nous. C'est vrai, il y a des textes qui le disent. Mais il l'a fait pour Dieu. Il nous a rachetés pour donner à Dieu un peuple. Amen. C'est pour Dieu. C'est le sens de la vie chrétienne, pour Dieu. Quand on s'est consacré, on a compris que quand on s'est converti, pardon, on a compris qu'on a jusque-là vécu pour nous et que c'était ça le péché. Et en vivant pour nous, on a fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais le vrai problème n'était pas tant tout ce qu'on a fait de mauvais, quoique c'était grave, mais c'est qu'au fond, notre vie était vécue pour nous, loin de Dieu. Et quand on s'est converti, on lui a demandé pardon d'avoir vécu sans lui. Et on a pris l'engagement maintenant de vivre pour lui. Cet engagement, c'est une vie, l'engagement d'une vie de consécration avec le temps. Les chrétiens peuvent recommencer à vivre quand même pour eux. Et tout l'enjeu est là, c'est de rester consacré au Seigneur. J'ai noté être consacré au Seigneur et non à une activité. Parfois, on pense que d'être consacré, c'est faire un truc dans l'Église. Alors, on appelle ça un service, mais je mets entre guillemets « service ». Parce que si c'est ce à quoi on est plus attaché, c'est plus un service pour Dieu. Nous servons Dieu quand c'est pour lui prioritairement. Mais si nous faisons quelque chose dans l'Église parce que ça nous plaît, alors nous ne sommes plus au service du Seigneur. Donc quand je parle de consécration, je voudrais d'abord dire que la priorité c'est d'être consacré au Seigneur et pas à ce qu'on fait, prétendument pour lui. On peut lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, s'il vous plaît, ce passage éloquent. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Et vous savez ce que je viens de vous dire, c'est particulièrement vrai pour les pasteurs, parce qu'à un moment donné, si on s'éloigne un peu du Seigneur, on peut se consacrer à son ministère pastoral et pas forcément se rendre compte qu'on n'est plus consacré d'abord au Seigneur. Et c'est ça qu'il faut, nous tous, que nous fassions attention. C'est, à un moment donné, vraiment, réaliser que le plus important, et de très loin, ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu, c'est ce qu'on est pour lui. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. 2 Timothée 3, 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. » Bon, cette description correspond bien à ce que nous constatons de la société. Mais quand il est question de ceux qui ont l'apparence de la piété, ça nous touche peut-être d'un peu plus près, nous chrétiens. Le danger d'avoir l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Il n'est pas précisé dans le détail ce qui en fait la force. Nous en sommes réduits à réfléchir sur ce qui pourrait rendre faible la foi. L'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Il me semble que ce qui donne en partie de la force à la piété, c'est une vie de consécration. Quand on est consacré, on est fort. Quand on est déconsacré, on est faible. On le verra tout à l'heure avec un passage avec l'illustre exemple de Samson. Tant qu'il était consacré, il était fort. Mais du jour où il a profané sa consécration, il a perdu toutes ses forces. Ce qui fait la force de la piété, c'est une vie consacrée. On peut continuer à aller au culte, on peut continuer à chanter des cantiques, à écouter la prédication, on peut, comme même les pharisiens, étudier la Bible. Mais si notre cœur n'est plus au Seigneur, nous perdons toute force. Même cette onction divine de l'Esprit, l'on m'a toujours instruit dans les églises où je suis né, que le feu descendait sur l'autel. L'Esprit de Dieu repose sur des gens consacrés. Dans la Bible, quand Élie veut restaurer l'autel, le signe, c'est que le feu allait descendre du ciel sur l'autel restauré. L'Esprit de Dieu tombe sur une vie sacrifiée, consacrée. Il est dit que l'Esprit n'était pas encore dans l'Évangile selon Jean parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Mais pourquoi Christ a reçu du Père l'Esprit? Parce qu'il est monté sur l'autel de la croix. C'est sur l'autel de la croix, sans donnant sa vie, qu'il a ensuite reçu du Père l'Esprit pour le répandre sur l'Église. D'ailleurs, un détail peut-être, pas qu'un détail, mais je vous laisse y réfléchir, doctrinal, La Bible n'enseigne pas de prier le Saint-Esprit. La Bible enseigne de prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ça fait réfléchir. Mais si nous voulons avoir cet esprit indispensable à la vie chrétienne, c'est le même chemin que le Seigneur, c'est le chemin de l'autel. Une vie, l'Esprit de Dieu repose sur une vie consacrée. Une vie déconsacrée vivra une diminution de la vie de l'Esprit. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. Vous savez qu'avec la manne, il fallait en ramasser chaque jour. La vie de l'Esprit, on ne peut pas dire « Ah, mais maintenant, moi, je suis chrétien, j'ai l'onction de l'Esprit, je l'ai reçue, et j'ai pu à le demander, j'ai pu à le recevoir, je l'ai une fois pour toutes. » Oui et non. Ça serait vrai si la vie de l'Esprit était une vie statique et si la vie chrétienne pouvait être un acquis. Mais en réalité, l'apôtre Paul dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Ephésiens 5. Donc, c'est une vie de renouvellement. Et ce renouvellement de l'esprit ne s'inscrit que dans une vie consacrée. Alors, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je pense aussi que ce qui peut faire la force de la piété, c'est l'obéissance. On va se rappeler un texte très connu, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Je vous invite avec moi à le prendre et à le relire parce que c'est un passage très connu, mais ô combien utile. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais obéir à quoi, à qui ? Mais juste après, Samuel dit, l'observation de sa parole. Je crois que ce qui va faire la force dans la piété, c'est aussi la place de l'Écriture. Et pas de l'Écriture seule, de l'obéissance à l'Écriture dans notre vie. L'obéissance, c'est quelque chose d'essentiel. Un chrétien qui n'obéit pas au Seigneur, c'est un chrétien qui aura une apparence de piété, mais qui aura de moins en moins de conviction, de certitude, de force dans la vie. Être consacré, c'est donc certainement avoir le sens du sacré. Consacré. Avoir le sens du sacré. Alors, je pense que des fois on oublie que nous sommes des personnes saintes, des personnes sacrées. Bibliquement, un chrétien est un saint. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Pas un saint dans le sens catholique où on serait un être exceptionnel, mais un saint dans le sens biblique, c'est-à-dire choisi par Dieu, mis à part pour le servir. Alors, on le lit dans 2 Corinthiens 1:21. Vous voulez bien 2 Corinthiens 1:21, voilà ce qui est dit. 2 Corinthiens 1:21. Il est dit ceci, 2 Corinthiens 1, 21, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Et qui nous a oint, c'est Dieu. Je vous le lis dans la traduction du Semeur, qui a l'avantage peut-être d'essayer de rendre le mot employé ici et traduit par « oint », c'est le mot qui vient de Christ en fait. n'est pas le mot qui est dérivé de pneuma, esprit, mais un mot dérivé de Christ. Alors, la Bible du Semeur rend comme cela. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous, Christ, et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et qui nous a consacrés à lui par son onction. Parce qu'effectivement, ce mot est appliqué à Christ en tant que Messie consacré. Et fait écho dans l'Ancien Testament à cette cérémonie de consécration des sacrificateurs. Et effectivement, par la nouvelle naissance, nous avons reçu une onction qui a fait de nous des sacrificateurs, qui nous a consacrés. Nous sommes donc des personnes saintes. Dans l'Ancien Testament, il fallait vraiment considérer le sacrificateur comme une personne sacrée, sainte, une personne à part, une personne qui servait Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des personnes saintes, sacrées. Et une vie consacrée, c'est certainement une vie dans laquelle nous n'oublions pas la valeur de notre investiture. Notre conversion nous a investis dans la maison de Dieu comme sacrificateurs. Vous savez, des fois on dit, quand on a une charge, quand on doit quand même assumer, avoir l'attitude en rapport avec la fonction. On attend d'un ministre une certaine exemplarité, parce qu'on a une estime de cette fonction. Et je crois qu'avoir le sens du sacré, c'est avoir de l'estime pour notre vocation que Dieu nous a donnée. Pas l'estime de nous, mais une estime, une grande valeur au fait que Dieu nous a sanctifiés, nous a consacrés. Alors, l'apôtre Jacques dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est avec jalousie. C'est-à-dire que nous sommes des personnes sacrées, nous sommes devenus même un temple sacré. Et la Bible dit que Dieu a donné en nous l'Esprit, mais avec jalousie. Ça me rappelle le livre d'Ézéchiel, que j'ai relu cette semaine. À un moment donné, Dieu montre à Ézéchiel l'idole de la jalousie. C'est au chapitre 8 d'Ézéchiel. L'idole de la jalousie. Et là, Dieu montre à Ézéchiel, mais dans son temple, il y avait une immense idole à l'entrée, en plein milieu du parvis, une idole de la jalousie qui allait exciter Dieu, mettre Dieu en colère et provoquer la ruine de Jérusalem. Vous savez, Dieu nous a consacrés comme sacrificateurs et Dieu nous a consacrés aussi comme temple. Toutes ces images de l'Ancien Testament trouvent leur réalité en Christ. En Christ, nous sommes sacrificateurs. En Christ, nous sommes le temple de Jérusalem. Et si dans notre vie, notre cœur n'est plus tout pour lui, mais pour d'autres choses, c'est la même chose qu'à l'époque où ils ont élevé une idole dans un temple, le temple de Dieu. Ça nous choque quand on lit ça. Mais comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu mettre une idole dans le Saint-Temple de Dieu? Oui, mais nous, si nous vivons pour d'autres choses que pour le Seigneur, alors nous allons nous aussi exciter la jalousie de Dieu parce qu'il ne nous donne pas son esprit avec légèreté. Avoir le sens du sacré pour une vie consacrée, c'est réaliser la valeur de l'esprit que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Vous avez peut-être un gros compte en banque, je ne sais pas. Mais franchement, qu'est-ce que David a dit? Alors qu'il avait palais, richesse, renom, victoire, il avait tout. Mais quand il tombe bien bas, il ne pense qu'à une seule chose, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Sa couronne, il s'en fiche. Ses richesses, il n'y pense pas. Mais il a peur. Il a peur d'une chose, c'est que le bien le plus précieux qu'il ait lui soit enlevé, l'Esprit Saint. Ça, c'est le sens du sacré. David a toujours gardé le sens du sacré. C'est ce qui lui a permis toujours de se repentir et de se relever, malgré les moments bien décevants qu'il a pu avoir. Nous aussi, bien-aimés, nous avons nos chutes. Mais si dans nos chutes, nous gardons ce sens du sacré, la valeur des choses de Dieu, nous pourrons toujours revenir vers lui. Parlons maintenant de cette déconsécration. Je crois en la consécration, je crois aussi en la déconsécration. Alors, lisons dans Juges chapitre 16, versets 16 à 21. Juges 16, versets 16 à 21. Vous savez, tout est fait pour qu'on ne soit pas consacré au Seigneur. Dieu dit, laisse aller mon peuple à Pharaon afin qu'il me serve. Et qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, je vais le faire travailler encore plus. C'est ça, hein? Alors, peut-être avant de lire ce passage, je voudrais vous donner un petit conseil qui sera peut-être difficile à mettre en pratique, une obéissance qui vous coûtera. Vous savez, faites attention que votre travail ne détruise pas votre consécration. Parce que ça a toujours été une tactique vieille du diable. C'est d'accabler le peuple de Dieu de travaux pénibles pour qu'il ne puisse pas penser et ne puisse même pas être capable de servir Dieu. Hein? C'est un esclavage. Parfois, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont esclaves de leur travail. Et ils ont vraiment besoin que Dieu les délivre à nouveau pour qu'ils puissent le servir. Alors, Juges, chapitre 16, verset 16, s'il vous plaît. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta, à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma père, de ma mère. » Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme n'importe qui. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Terrible ça, hein? Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » C'est terrible ça. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain, il tournait la meule dans la prison. Amen. C'est terrible. Et de dire, mais je vais m'en sortir. Bon, c'est ton siècle, Seigneur, je m'éloigne du Seigneur, je vois bien, je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. On ne s'en sort jamais sans le Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire de bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Parce qu'il a joué avec le feu, Samson. Il était toujours à la limite. Alors, je ne suis pas de ceux qui tirent à boulet rouge sur Samson. Je crois que Samson est un exemple de la foi. Et on n'aurait pas le temps de détailler ce matin. Mais néanmoins, à un moment donné, dans sa vie, et comme dira Salomon, il n'y a pas d'homme qui ne pêche. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme qui ne déçoive pas. Et parfois, les chrétiens disent, « Ah, moi, je viens plus à l'église parce que j'ai été déçu. » D'un pasteur ou d'un chrétien ou d'une chrétienne. Mais il n'y a pas d'homme, ça n'existe pas des gens qui ne déçoivent pas. Et vous-même, vous avez déçu les autres. Et ici, Samson, il se déconsacre sans s'en rendre compte parce qu'il dort. Endormi sur les genoux de Delila. Il se réveille. Mais voilà. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte qu'on se déconsacre. Parce qu'on est endormi sur les genoux, peut-être d'un sport. J'ai connu un frère qui, de temps en temps, n'allait pas au culte parce qu'il avait son match de foot. Le sens du sacré, c'est aussi le sens du culte. Le culte est sacré. Et je crois que de s'absenter régulièrement du culte de notre église locale, c'est une perte de consécration. Parce que quelque part, quand on se tourne vers le Seigneur, on est sauvé, on n'avait rien à perdre, on a tout gagné. Mais avec le temps, en tant que chrétien, ben, on a peut-être réussi dans la vie, grâce à Dieu. Parce que grâce à notre conversion, on a été peut-être plus sérieux dans les études, on a été remarqué sur notre lieu de travail, on a bien fait notre boulot. Donc, on a eu une position sociale, on a eu des possibilités financières, mais tout cela après peut nous éloigner de Dieu. Et endormi, il n'est pas conscient qu'il se déconsacre. Il peut y avoir d'autres raisons à la déconsécration. Là, ici, c'était l'amour d'une femme, et on en a vu hein, de nombreux jeunes dans nos églises. Ça aussi, c'est une autre ruse du diable, c'est de faire tourner comme par hasard des jeunes qui se tournent vers le Seigneur, comme par hasard, à peine ils se tournent vers le Seigneur, il y a une fille qui tourne autour du frère, il y a un gars qui tourne autour de la sœur, et il y en a eu plusieurs qui ont quitté les voies du Seigneur à cause d'un garçon ou à cause d'une fille. Mais il peut y avoir d'autres raisons, et je voudrais te donner ce conseil, si tu veux une vie consacrée au Seigneur, tu ne peux pas faire ta vie avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et ce n'est pas une question de règles et d'interdits. Ce n'est pas dans l'église, tu n'as pas le droit de te marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça dépasse, ce n'est pas une question de règlement. C'est une question de cœur. Si tu veux vivre pour le Seigneur, fais ta vie avec quelqu'un qui veut vivre pour le Seigneur. Ça, vous vivrez ensemble pour le Seigneur. Et tant que tu ne connais pas quelqu'un dans le Seigneur, ne t'en préoccupe pas trop parce que je pense que le célibat peut être un temps de consécration. Alléluia. En tout cas, c'est comme cela que Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ça peut être un bon temps. Aujourd'hui, quand quelqu'un est célibataire, à 30 ans, c'est pas normal. On le regarde avec des gros yeux. Il dit, ben, t'es bizarre. Alors, t'es pas beau ou t'es pas belle. Mais non, dans l'Église, on ne voit pas les choses comme ça. Dans l'Église, ce qui compte, c'est le Seigneur. Et si vous ne trouvez pas, mais que vous vivez pour le Seigneur, ben vous avez une belle vie. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il n'y a aucune honte à être seul, loin de là, si cette solitude, elle est donnée au Seigneur. Il peut y avoir d'autres raisons de se déconsacrer. Hein, il est question d'une invasion, l'invasion des autres convoitises. On peut aussi se déconsacrer parce qu'on est découragé. À un moment donné, on est découragé, on est déçu, et puis on s'éloigne. Mais je ne veux pas continuer, le temps a passé. On va lire un dernier texte, Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 7. Alors nous avons parlé de la consécration depuis notre conversion, nous avons parlé de la déconsécration et je terminerai avec ce passage pour parler de la reconsécration. Amen. Je crois aussi en la reconsécration. Ésaïe 55, verset 1, voilà ce qui est dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra vraiment. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il se reconsacre, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Quel beau passage. Notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Vous tous qui avez soif, j'espère ce matin que ce partage peut-être a donné à quelqu'un d'avoir soif de donner sa vie ou de redonner sa vie. Vous qui avez soif ce matin, venez vers le Seigneur. Il vous pardonnera tout. Vous savez, il y a nos péchés d'avant le baptême. C'était grave ce qu'on a fait. Puis après, dans la vie chrétienne, des fois, on s'éloigne. Et quelque part, ça, des fois, on se dit, c'est encore pire. Parce qu'on a connu le Seigneur. Et quelque part, on s'est éloigné de lui. Ben, même ça, ces péchés-là qui sont plus graves, le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Vous savez, le fils prodigue, souvent on l'a pris dans nos réunions dites d'évangélisation pour les nouveaux venus dans l'église. Mais dans la parabole, le fils prodigue, c'était quelqu'un de la maison. Le fils prodigue, ce sont les chrétiens qui parfois s'en vont. Ah, ils peuvent rester, ils peuvent continuer de venir le culte le dimanche matin, mais ils s'en vont loin dans un pays qui les rend si misérables. Parce que quand on se déconsacre, on devient si misérable. Mais Dieu est le Père du fils prodigue. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ni une ni deux, il court, il le prend dans ses bras. Allez, vendez le veau gras, tuez le veau gras. L'autre n'est pas content, hein. Mais le père lui dit, il fallait bien se réjouir. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Dieu soit béni. Oui, un chrétien peut revenir à la vie parce qu'il a ce père qui, sans reproche, rétablit celui qui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. À Dieu soit la gloire pour son pardon et son amour. Et que son esprit nous aide à vivre dans cette consécration. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et pardonne-nous parce que tout dans ce monde favorise la profanation de notre conversion. Et fais-nous revenir à toi. Touche nos cœurs pour que nos pensées soient pour toi. Le premier des commandements de ta parole, c'est de t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Seigneur, ce commandement-là, nous ne pouvons pas le vivre si tu ne nous accordes pas l'Esprit. Accorde-nous, je t'en supplie, cette grâce de t'aimer de tout notre cœur et de toutes nos pensées. Amen.